Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de Lusitania. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée à la lusophonie. Au micro, Marlène Alves, à la technique, Armand et Célian. Merci à tous les deux. Lusitania reçoit aujourd'hui Altina Ribeiro. Bonjour Altina.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Altina qui est de la SALF pour une rencontre appelée Paris-Lisbonne qui aura lieu à la Maison du Portugal André Gouveia le samedi 1er juin à partir de 13h et jusqu'à 19h. Donc encore une fois, bonjour Altina.
Bonjour.
Est-ce
Marlène.
Que vous pouvez vous présenter?
Alors, moi, je suis auteure de plusieurs livres sur l'immigration portugaise en France. J'ai commencé par écrire ma propre histoire dans mon premier livre qui s'intitule « Le fado pour seul bagage ». J'ai ensuite écrit l'histoire d'une dame qui s'appelle Alice, qui a connu des moments douloureux durant la dictature. Et j'ai intitulé ce deuxième livre « Alice au pays de Salazar ».
Mais Altina, je vous arrête juste vite fait, parce que je sais que vous avez écrit 4 livres.
Oui.
Et je voudrais les développer un petit peu plus tard.
D'accord.
Là, je voulais parler un petit peu de cette rencontre de
D'accord.
la SALF qui aura lieu le 1er juin, donc à partir des 13h.
Oui.
Et vous présentez en tant que... Quel est votre rôle au D'accord. sein de cette association?
Alors, au sein de la SALF, en fait, la SALF, Société des auteurs lusophones de France, a été créée par un groupe d'auteurs dont je fais partie, a été créée en janvier 2011. Et elle s'est fixée pour principal objectif de regrouper en son sein les auteurs lusophones, écrivant et éditant leurs œuvres en portugais ou en français, et pour aider à la création, à l'édition et la diffusion des œuvres, et organiser des rencontres littéraires et toutes autres manifestations ou activités liées à la promotion des œuvres. Et donc la rencontre du 1er juin à la Maison du Portugal fait partie de ces activités-là.
Et quel est votre statut au sein de cette association, la SALF, qui a déjà un certain âge?
Oui, je suis secrétaire et trésorière.
D'accord. Et vous avez parlé de qu'est-ce que c'est la SALF, mais la SALF aussi regroupe des auteurs, bien
oui.
sûr, la littérature est mise en exergue, mais vous avez aussi des peintres, des musiciens qui font partie.
Tout à fait. En fait, au départ, on avait un groupe d'auteurs nous avons créé cette association, mais par la suite, nous avons aussi des adhérents qui sont qui sont artistes peintres, des sculpteurs et également des musiciens.
Alors d'ailleurs, un de ces musiciens sera là le 1er juin, donc vers 16h, quelque
C'est
chose
ça,
comme ça.
À peu près.
À peu près, et on va écouter une de ses musiques. Il s'appelle Quito de Souza. Donc, on va écouter Água de Chuva, interprétée bien sûr par Quito de Souza, qui sera aussi le 1er juin avec ses guitares pour égayer et pour montrer qu'est-ce que la musique portugaise a aussi à offrir. On écoute donc Quito de Souza et Água de Chuva.
Thank you.
Donc on vient d'écouter Quito de Souza avec son morceau Água da Chuva. Et Água da Chuva, on a eu beaucoup de chuva, ça veut dire l'eau de la pluie. Et c'est vrai que cette semaine, on a eu plein de pluie, mais les chansons qui suivaient sont plus ensoleillées. Donc oui, Quito de Souza, donc, qui sera donc, à la fin de cette rencontre de la SALF, il fera une soirée musique à partir à peu près de 16 heures.
D'accord.
Donc, quels ont été... Bon, on, Altina Rivel, vous nous avez parlé un petit peu de ce que c'était la salle et tout ça, mais quel a été son parcours jusqu'à aujourd'hui de la SALF ?
Alors donc elle a été créée en 2011, nous l'avons lancée au consulat du Portugal à Paris. Il y a aussi eu une rencontre culturelle dans les locaux d'un CIC à Paris, qui est donc notre banque. Nous avons également lancé plusieurs livres des adhérents au consulat général du Portugal à Paris. On a organisé aussi des cafés littéraires, un salon du livre à la mairie du 17e arrondissement, un salon du livre également à la Maison du Portugal à Paris. On a organisé aussi des soirées au restaurant Quinto de Sodach à Champigny-sur-Marne. C'était en 2012. Hein, c'était pour le thème était le démantèlement, les 40 ans du démantèlement des bidonvilles de Champigny-sur-Marne. Mm-hmm. Donc il y avait des projections de films, de photos. Il y a eu des débats et un concert et un repas.
Oui, c'est vrai qu'avec la SALF, il y a eu déjà plusieurs fois des projections de films.
C'est vrai.
Très
oui,
bien.
Oui, parce qu'en plus, je connais personnellement José Vieira qui a.
On a eu le plaisir de l'avoir ici il y a quelque temps.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il y a eu aussi la projection du film de José Vieira, Les Immigrés, qui a été tourné dans mon village et qu'on a aussi projeté à Champigny.
Et quel est ton village ?
Alors, moi, je suis de San Vicente da Raia, à 30 km de Chaves. Au nord du Portugal. Et cette soirée-là, de la projection des immigrés, c'était en hommage à mon papa. Donc, mes parents apparaissent dans ce film. Hein, pour rendre hommage à mon papa qui nous a quittés en 2017, j'ai organisé une soirée de projection de ce film avec débat également. On a aussi organisé la projection du film de Carlos Pereira, Les héritiers de la bataille de l'Alice, à la Maison du Portugal.
Et je suppose qu'avec la musique d'Anginger.
C'est ça, exactement.
Ah oui, parce que sa musique sur la bataille de l'Alice, elle est très, très bien.
Oui, et justement, il apparaît dans le film. Donc, à la fin de la projection, à la fin du débat, il nous a interprété quelques-unes de ses musiques. Et en fait, à chacune de ces rencontres, les adhérents de la SALF qui peuvent se rendre disponibles sont présents et présentent leurs ouvrages, puisque c'est grâce à la SALF qu'on peut organiser ce genre de rencontres. Et donc tous les ans en mai, nous participons au marché européen de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un marché qui regroupe tous les pays d'Europe. Et donc nous, on représente le Portugal avec les ouvrages de la SALF. Alors, une année sur deux, nous participons à une rencontre multithème à Houille. Donc là, il y a des auteurs, des peintres, des sculpteurs, de la mode, de la musique. Voilà, et c'est sur deux jours, samedi et dimanche. Et donc c'est un grand panel de différents artistes.
Pas seulement lusophone.
Pas seulement lusophone.
Voilà.
Voilà.
Mais la lusophonie y est présente.
Ah, complètement, oui. Voilà. Et donc, l'événement du 1er juin, c'est dans la continuité de ce que nous organisons habituellement.
Donc, oui. Et cet événement, pourquoi la Maison du Portugal ?
Parce que d'abord, c'est un lieu mythique, et puis il y a une très grande salle, il y a deux salles qui sont mises à notre disposition. C'est une cité universitaire, du coup, ça nous permet aussi d'avoir un jeune public, hein, les étudiants qui viennent. Donc c'est important aussi de leur faire découvrir les artistes. Et voilà, c'est un très
bel
endroit.
Et puis, on appelle la maison du Portugal, mais il n'y a pas que des étudiants portugais qui sont résidents là-bas. Donc, voilà, ça fait rayonner la littérature et puis les artistes portugais à travers ces autres nationalités, ces autres pays qui sont là
en logement. Tout à fait, parce que c'est une cité internationale, donc il y a d'autres pays représentés. Et donc, c'est ouvert, évidemment, à tout le monde. L'entrée est libre, hein. Donc c'est important.
Et si je ne me trompe pas, il y aura un petit buffet à la fin ?
Oui, c'est ça.
C'est important.
Mais oui, c'est important parce que ça nous permettra après d'échanger autour d'un verre et puis de clôturer la rencontre. C'est bien aussi, ça fait partie de...
du Portugal.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il faut mettre en valeur la littérature lusophone, quelle que soit, pas seulement portugaise, mais aussi peut-être d'autres nationalités. Ils sont adhérents de la SALF ?
Ah oui, je veux dire, tout le monde peut adhérer à partir du moment où il écrit, où il peint, enfin je veux dire, quelle que soit au contraire, plus c'est varié, mieux c'est. Donc il n'y a pas de conditions pour adhérer. Donc, et puis, en fait, ça permet aussi aux adhérents de se faire connaître. Les personnes qui sont invitées, ce sont déjà des personnes qui ont déjà écrit beaucoup de livres, qui ont déjà beaucoup exposé. C'est ouvert aussi à des personnes qui débutent et on les aide aussi parfois à trouver un éditeur, ce qui peut être parfois un parcours du combattant. C'est pas toujours évident quand on démarre. À trouver parfois aussi des correcteurs. Et le fait de participer à ce genre de rencontres, ça leur permet de se faire connaître du public. Et comme c'est dans différents lieux, du coup, il y a un public qui est assez large.
Merci beaucoup. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania sur Allegre FM. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Altina Ribeiro, qui est écrivaine.
Oui, maintenant
voilà,
ça se dit.
Voilà. Et qui fait partie de la SALF, donc, qui est la Société d'auteurs lusophones de France, et qui est avec nous pour nous parler de cette rencontre qui aura lieu le samedi 1er juin à la Maison du Portugal à la Cité Universitaire. Après cela, on va partir en musique avec Kito de Souza et un morceau qui s'appelle Canarios.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donc, on vient d'écouter Canarios, interprété par Kito Souza, qui aura le plaisir de découvrir le 1er juin à la Maison du Portugal à la Cité Universitaire pour cette rencontre de la SALF. On a avec nous Altina Ribeiro et je voudrais lui poser comme question, est-ce que il y a une méconnaissance de la littérature lusophone ? Portugaise en particulier.
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé cette association, pour que les auteurs, les artistes se fassent connaître. Donc ça aide à la promotion et donc c'est un peu le but de cette rencontre.
Est-ce que quand vous parlez autour de vous, vous parlez de la littérature lusophone, est-ce que les personnes ont une notion de qu'est-ce que c'est la littérature lusophone?
Pas toujours.
Parce qu'on connaît la littérature de l'Amérique latine, différents pays, la Colombie, l'Argentine, etc. Les États-Unis, bien sûr, l'Angleterre, la France, évidemment, l'Allemagne, etc. L'Espagne aussi, mais le Portugal, un peu moins.
Un peu moins, mais ça commence à bouger, heureusement. Donc, c'est plutôt positif.
Alors, est-ce que pendant cette rencontre qui va avoir le 1er juin, vous pouvez nous parler un petit peu des auteurs qui seront présents lors de cette rencontre? J'aimerais savoir comment ça s'est fait, les choix aussi des auteurs et artistes, parce qu'il y a aussi des artistes qui vont exposer et qui participent à cette rencontre. Peux-tu nous en parler un petit peu?
Oui. Alors, la rencontre débutera à 13h, donc l'ouverture se fera en présence de João Costa Freire, qui est le directeur de la Maison du Portugal. Ensuite,
très grand musicien de musique classique, un grand chercheur aussi, mais un exergue aussi la musique classique portugaise, qui est très méconnue en France.
Voilà. Et puis, donc après, nous ferons une rapide présentation de la SALF, Société des auteurs lusophones de France, et de ses activités dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous appellerons chaque artiste et chaque auteur qui interviendront. On leur donnera quelques minutes pour se présenter, pour parler de leur travail. Ensuite, on laissera un peu de temps pour que les personnes puissent aller les rencontrer.
Donc, en effet, ce ne sera pas une table ronde ni un débat, ce sera vraiment une rencontre.
Une rencontre, tout à fait, parce que c'est que l'après-midi, donc du coup, on est un peu pris par le temps. Et si on organise des tables rondes, ça va un petit peu... Les personnes auront moins le temps de rencontrer les artistes.
Et d'échanger avec les publics.
Et d'échanger, exactement. Et donc on donne la parole aux artistes pour qu'ils nous parlent de leur travail. Après, le public peut aller à leur rencontre. Donc, les auteurs auront chacun une table avec leurs ouvrages. Les artistes pourront exposer leurs tableaux qui seront donc sur place. Et puis après, éventuellement, les auteurs peuvent dédicacer leurs livres. Et puis donc suivra le concert de Quito de Souza. Quito qui a étudié la musique au Conservatoire Régional de Tomar, qui est boursier de la Fondation Kalout Gulbenkian, qui a obtenu un premier prix de guitare au Conservatoire de Paris et une médaille d'or à l'École Nationale de Musique.
Et qui est actuellement professeur au Conservatoire de l'Essonne et directeur artistique au Festival international Guitare d'Essonne.
C'est ça.
Et membre de la fondateur de Paris Guitare Quartet.
C'est ça.
Il a à son palmarès 5 ou 6 CD. Voilà, c'est un grand musicien.
D'accord. Tout à fait. Alors, donc nous avons, nous aurons Manuel do Nascimento, qui est auteur de livres sur l'histoire du Portugal, qui sont en bilingue, français-portugais. Nous aurons aussi Luisa Ramos. Alors, nous avons des artistes du Portugal et de France. Donc, c'est pour ça que la rencontre s'appelle Paris-Lisbonne.
Ah, il y a des auteurs ou des artistes qui
viennent du Portugal.
Du Portugal,
ouais,
directement.
Tout à fait.
Et est-ce que ceux qui viennent du Portugal, leur livre, il est en portugais ou ils ont été traduits aussi en français?
Ils sont en portugais.
D'accord.
Voilà. Et il y a aussi bien des auteurs que des artistes peintres qui viennent du Portugal. Donc,
c'est
on
super.
A trouvé que c'était intéressant.
De faire cet échange.
Ce ne sont pas des personnes qui sont adhérents de la SALF, mais ils sont invités par la SALF.
Bien sûr.
Et c'est important. Enfin, on a trouvé que c'était intéressant de faire justement cette rencontre entre Paris et Lisbonne.
Oui.
Alors, nous aurons également Luisa Ramos, qui est professeure, qui est écrivaine, qui a édité 14 livres et qui a gagné divers prix. Susana Pires, qui est directrice de Elos Club de Lisbonne, qui a écrit un livre biographique et également un livre de poésie. Alors là, nous passons à une artiste peintre, Odette Domingues Freire, qui expose en France et au Portugal, qui a reçu également des prix, notamment le prix de peinture au Salon des artistes de la ville de Houille. Toujours dans les artistes peintres, nous avons Nathalie Afonso, qui a été formée à l'école Boulle en France.
Une grande école, oui.
Voilà, très grande école, qui fait qui expose énormément à vraiment dans beaucoup, beaucoup de pays. En 2002, elle a créé un atelier des noctambules, donc pour enseigner
la technique,
oui, exactement. Oui. Nous avons également Xif Coffran, qui est également artiste, donc peintre. Pareil, il a eu de nombreux prix, et notamment la médaille d'or à Miami.
Oui, de l'exposition internationale.
C'est
oui,
ça.
À Miami.
Alors, Santiago Belacqua, qui a exposé à l'Assemblée nationale au Portugal.
Il vient directement du Portugal,
là,
celui-là.
Il vient du Portugal. Il a des tableaux qui sont exposés dans les musées et les cathédrales. Il a été distingué par les arts, sciences, lettres de Paris. Nous avons
et
aussi...
il est le conservateur, excuse-moi, de couper la parole, aussi de la Biennale Lisbonne-Paris.
C'est ça.
Lisbonne Art Chrétienne, voilà.
Exactement.
De Lisbonne.
Alors, toujours une artiste qui vient du Portugal, Teresa Antunes, qui a fait également beaucoup d'expositions au Portugal, en Italie. Comme auteur, nous avons, qui est donc lui adhérent de la SALF, qui est en France, Emilio Moraes, qui a écrit deux livres de poèmes, Les thèmes et les poèmes, et le second, Impression. Toujours comme auteur adhérent de la SALF, Alexandre Vieira, qui est auteur et journaliste, et qui a écrit deux romans, Julia Floriste en 2021 et Comme dit la chanson qui vient de sortir.
D'ailleurs, Alexandre Vieira a été animatrice ici sur Lusitania.
Voilà, j'ai eu le plaisir d'être interviewée par elle il y a quelques temps.
Et malheureusement, elle nous a quittés vers d'autres horizons.
Dommage. Alors, toujours dans les écrivains, nous avons Mário Queda Gomes, pardon, qui est professeur de portugais et donc écrivain, et qui a écrit « Les passages obligés » et « Une odyssée portugaise ». Et donc, Quitaud Souza, qui nous fait l'honneur de venir jouer de la guitare après la rencontre.
Ah ben c'est super. Donc, cet choix, ça a été un choix voulu ou c'est un choix de ces auteurs parce que voilà, il y en a qui vous plaisent particulièrement ou parce que les gens ils ont leur temps ou leur profession qui ne leur permet pas toujours de venir ces rencontres.
C'est pas toujours facile. En fait, chacun de nous, les adhérents de la SALF, connaît des auteurs ou des...
Vous avez coopté
voilà,
un auteur.
Voilà, donc moi je connaissais un auteur, je l'ai invité, il a accepté avec plaisir, donc il sera là. Et ainsi de suite, en fait, c'est des gens que nous connaissons parce que grâce le fait de traduire les livres en portugais ou d'écrire en portugais, ça nous ouvre aussi les portes du Portugal. Donc on présente nos livres au Portugal, du coup ça nous fait connaître des gens. Et puis c'est comme ça qu'on échange entre le Portugal et la France, c'est important.
Oui, et puis surtout, se faire aussi connaître peut-être des éditeurs, de faire des échanges entre les uns et les autres.
Bah oui.
Donc, parmi les artistes peintres, il y aura beaucoup d'expositions ou ça sera plutôt juste un petit aperçu de leur travail?
Ah ben, ils auront un espace pour exposer. Bon, ils peuvent pas, comme ils sont plusieurs, ils pourront apporter, je pense, à peu près quatre tableaux chacun, parce qu'il faut aussi un peu de place pour les autres.
Voilà.
Mais voilà, c'est une façon de se faire connaître. Et puis ils sont tous ravis de venir en France, à Paris. Ça leur fait une occasion puis bon, chacun a toujours quelqu'un de la famille qui vit. Voilà, c'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable.
Alors, on va partir en musique et on va écouter Cubanita. Donc, toujours Quito de Sosa qui sera donc à partir de 16h dans cette rencontre. On écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, on vient d'écouter Cubanita de Quito de Sosa, qui sera donc le 1er juin à la Maison du Portugal, à la Cité universitaire, lors de la rencontre qui aura lieu de la SALF, qui est la Société d'auteurs lusophones de France. Et pour cela, pour nous parler de cette rencontre et avec nous, Altina Ribeiro, qui elle-même est écrivaine, qui sera bien sûr dans cette rencontre. Et comme écrivaine, Altina, je voulais vous poser un petit peu, que vous me décriviez ce que vous aviez commencé à faire au début de l'émission. Donc, un petit peu votre parcours. Vous avez déjà publié 4 livres en français. À peu près la même chose en portugais, deux en portugais.
J'en ai traduit deux en portugais, oui.
Voilà, et 4 en français. Donc, parlez-nous un petit peu de ces 4 livres, un en 2005, un en 2010, 2016, 2017.
C'est ça.
Voilà, alors parlez-nous un petit peu de ces livres, parce qu'ils sont très intéressants. Et c'est vrai que je vous ai connu autour de 2005,
au moment du premier.
Voilà.
Oui. C'était ma première radio, c'était ici.
Voilà,
et d'ailleurs, c'est là où j'ai retrouvé José Vieira, que vous receviez 15 jours après.
Oui.
Et vous m'avez dit, dans 15 jours, on reçoit José Vieira, qui est un réalisateur d'origine portugaise. Et ça serait bien que vous le rencontriez. Et en fait, je le connaissais depuis des années, depuis 30 ans en fait. On s'est rencontrés adolescents et après on s'est perdu de vue. Et grâce à votre radio, on s'est retrouvés.
Et voilà,
voilà.
Donc, comme quoi il faut écouter Lusitania et Aligre, surtout pour le monde lusophone, mais pas seulement.
Voilà. Exactement.
Alors, Altina Ribeiro, donc 4 bouquins édités en France.
Oui.
Commencer par la première, au foie d'eau pour seul bagage, c'est comme ça qu'on vous a connu ici sur Lusitania.
Oui, en fait, j'ai le foie d'eau pour seul bagage, c'est un livre autobiographique, j'y raconte mon enfance au Portugal dans les années 60. L'immigration clandestine de mon père en 63, donc son voyage clandestin qui a duré une semaine, son arrivée dans le bidonville de Champigny-sur-Marne où il a retrouvé son frère. Et parallèlement, notre vie au village sans lui pendant 6 ans, comment on vivait à cette époque, parce que le Portugal et la France à ce moment-là, c'était deux mondes.
Et puis surtout, papa était ici et maman était là-bas.
C'est ça.
C'était un peu les déchirements.
Ah mais complètement. Voilà. Complètement. Moi, quand il est parti, j'avais 2 ans, donc j'avais pas... Et en fait, il venait nous voir tous les deux ans, pendant ces 6 ans. Mais moi, j'étais trop petite et je n'avais pas de souvenir de lui entre chaque voyage qu'il faisait. Et en fait, moi, l'idée de ce livre, ça n'a pas été de raconter l'émigration. Et je voulais raconter une enfance hors du commun que j'ai vécue au Portugal. C'était une époque, bon, c'était durant la dictature, mais nous, en tant qu'enfants, on ne ressentait pas ça. Nos parents, tous avaient des difficultés financières dues à la situation du Portugal à l'époque. Mais nous, en tant qu'enfants, on était tous à la même enseigne et on était heureux comme ça. On vivait donc dehors. On rentrait que pour manger et dormir. On était heureux. Nos camarades de classe étaient nos voisins et nos amis. Voilà. Et dans la deuxième partie du livre, je raconte notre émigration également clandestine en 69.
Ah, le grand déchirement.
Ah bah oui. Et en fait, on quitte tout, on quitte notre vie, et donc notre famille, nos amis, notre maison.
École.
L'école, voilà. Le choc culturel énorme. Parce qu'on part d'un petit village et on arrive à Paris. On est arrivé à Paris 14e. Et donc, à l'école, les difficultés que ça a... Et puis finalement, ma sœur avait 12 ans, j'en avais 9. On sait, quand on est enfant, on s'adapte facilement. Au bout d'un an, mon père nous avait inscrite dans une école où il y avait une classe pour que les étrangers apprennent le français. Et après cette année-là, on a été orientés en fonction de nos connaissances et de notre âge.
Acquis que vous avez eus scolaires.
Exactement. Et donc, au bout d'un an, on a appris le français, on l'a appris à l'écrire, à le lire et à le parler en même temps. Et au bout d'un an, on commençait à être un petit peu à l'aise avec ma sœur. Et après, les difficultés ont surgi au fur et à mesure parce que nos parents sont arrivés avec... ils ont vécu sous la dictature, opprimés. Et donc, ils avaient des idées très, très arrêtées. Ils n'étaient pas très modernes dans leur façon de nous élever. Et nous, on comparait notre façon de vivre avec la façon de vivre de nos copines. Il y avait un monde. Et comme je dis souvent, en fait, chaque soir, on traversait une frontière. On quittait la France d'une époque pour se retrouver dans le Portugal d'une autre époque. Ça a été un petit peu compliqué, le moment de l'adolescence. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de mon livre. Ensuite, moi, je pense...
D'ailleurs, excuse-moi, mais ce livre a été adapté aussi au théâtre.
C'est ça, il a été adapté au théâtre par un groupe qui s'appelle Ushtugush. Cette troupe faisait partie d'une association à Fontenay-sous-Bois. J'avais contacté, parce que quand j'ai écrit ce livre, moi, je ne connaissais personne dans la communauté portugaise. J'ai découvert, en fait, les radios, les journaux, les associations. J'étais plus jeune, j'avais jamais fait partie d'une association. Donc, j'ai tout découvert parce que je me suis dit, je vais, pour le promouvoir, il va falloir que je me débrouille, Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et puis de fil en aiguille, de contact en contact, j'ai réussi à connaître plus de monde. Et j'avais contacté... le président de l'association de Fontenay-sous-Bois, dont j'avais entendu parler, qui était Baptiste de Matos, qui était le président de l'époque. Et je lui ai demandé si je pouvais faire la présentation de mon livre dans l'association. Il m'a dit oui, bien sûr, mais j'ai une autre idée. Au lieu de faire une association classique, nous avons un groupe de théâtre qui est à la recherche justement de textes en français sur le Portugal. Et donc, je pense que votre livre va les intéresser, va peut-être les inspirer. Et donc, il a confié le livre à Suzanne et Joaquim, qui dirigeaient la troupe. Et ils l'ont adapté au théâtre. Il y a eu deux adaptations, il y a eu plusieurs...
tournées.
Paris, région parisienne. C'était fabuleux. Oui. Puis bon, les gens adoraient. Et en plus, ils ont bien résumé le livre et ils ont bien reproduit les moments un peu émouvants et puis les moments plus drôles. Et vraiment, ça a été très, très bien adapté par un groupe de jeunes qui étaient de toutes origines. Donc, c'était super intéressant. Voilà, ça a été un très très bon moment et les gens, bah voilà, du coup, quand ils voyaient la pièce de théâtre, bah, ils avaient envie de se procurer le livre. Et du coup, je me suis fait connaître beaucoup aussi grâce à cette pièce de théâtre.
Et ce livre, tu l'as écrit directement en français?
Oui,
parce que finalement, le français est devenu ta langue maternelle.
Eh bien oui, pour le coup, puisque c'est ici, bon, j'avais 9 ans quand je suis arrivée, donc j'avais commencé ma scolarité au Portugal, mais uniquement 2 ans. Après avoir commencé mes études en France, mes parents m'ont quand même inscrite au cours de portugais, donc j'y allais le mercredi et le samedi. C'est bien, parce que du coup, j'ai pas perdu, mais j'ai pas le niveau que j'ai en français, puisqu'en français, j'ai quand même fait toutes mes études en France. Donc, j'écris en français, mais après, moi, je n'avais pas dans l'idée de le traduire, mais les gens que je rencontrais dans les salons ou dans les forums culturels, dans les présentations, me disaient « Ah, j'aurais aimé l'avoir en portugais pour l'offrir à ma mère ou à mon père qui ne lisent pas le français, ou à mes enfants qui vont au cours de portugais, j'aimerais qu'ils lisent mon histoire en portugais ». Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je l'ai traduit en portugais. Alors, c'est un travail monstre parce que, moi, en portugais, j'ai quand même quelques lacunes. Donc, je passais ma vie dans le dictionnaire et dans le Becherel. Et en plus de ça, il me faut une correction importante derrière. Mais c'est important pour moi de le traduire parce que ça me fait un bon exercice, en fait. Et puis, je retourne un petit peu à l'école avec les corrections. J'aime apprendre, donc ça me...
Voilà. Tes origines, en quelque sorte.
Ben oui, voilà.
Et, ta jeunesse.
Ouais, et en fait, en traduisant, ça m'a appris que finalement, alors, les deux langues, il y a des termes ou des mots qui sont très difficiles à traduire dans une langue comme dans l'autre. Parfois, je bute et c'est là que je m'aperçois, voilà, le portugais et le français sont des langues extrêmement riches et qui sont passionnantes, quoi. Et voilà, et donc, du coup, et le fait de l'écrire en portugais, ça m'a ouvert les portes du Portugal. J'ai pu le présenter à Chaves, près de chez moi, à la bibliothèque municipale, au musée de l'immigration à Faf. Voilà, et du coup, et puis ça permet aussi aux Portugais de connaître notre histoire. Et c'est important.
Souvent l'émigré est vu avec une certaine réticence.
Exactement.
Tu es vu avec réticence là-bas, tu es vu avec réticence ici.
D'ailleurs, plus là-bas qu'ici même. Et du coup, moi, j'ai rencontré un monsieur qui est venu à une de mes présentations, à Lisbonne d'ailleurs, parce que l'éditrice était à Lisbonne, donc ils avaient organisé une présentation dans une de leurs librairies. Et un monsieur était venu, et après la présentation, il est venu me voir et il m'a dit « ça me fait plaisir de voir que voilà, les immigrés ont évolué et puis votre histoire est intéressante. Vous avez de clandestines, d'immigrés clandestines, ce que j'ai été. Vous avez pu avoir un emploi. J'étais claire d'avocat, donc là j'ai la chance d'être à la retraite, mais malgré que mes parents ne voulaient pas que j'étudie longtemps, donc j'ai dû arrêter mes études malgré moi, mais j'ai repris mes études une fois adulte avec des enfants, et donc j'ai pu avoir le diplôme de premier clerc. Et d'ailleurs, dans ce métier, je rédigeais beaucoup, ce qui m'a aussi aidée pour écrire mon livre, même si ce n'est pas le même thème, ça m'a aidée parce que voilà. Et donc ce monsieur il m'a dit, je suis fière de voir que vous avez réussi et puis de nous faire partager votre histoire ici au Portugal, c'est important.
Oui, et dis-moi, juste petite, combien de temps, parce que j'étais en train de me dire, tu n'avais jamais écrit un livre. Tout d'un coup, tu sors les fados pour seul bagage. Combien de temps prend un livre comme ça? Parce que c'est toute une, comment dire, un retour en arrière, une réflexion sur le temps passé et le temps présent. Combien de temps?
Moi, quand j'étais enfant, j'observais beaucoup les adultes. Et toute l'enfance que j'ai vécue, je l'avais dans ma tête. tout, les anecdotes, les choses que je ressentais. Et puis, en fait, comme je travaillais à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, je me souviens que toutes les idées qui me venaient, je les écrivais dans le métro. Je me faisais des brouillons dans le métro.
Un petit carnet.
Voilà, j'avais mon petit carnet. Et puis, quand j'arrivais le soir, je retranscrivais sur mon PC.
Oh, c'est un bon exercice.
Voilà. Et du coup, là, je l'ai fait d'une façon chronologique. Donc, depuis ma naissance, parce que déjà, ma naissance est une histoire. C'est-à-dire que moi, je suis née le 25 septembre 1960 et je suis déclarée le 25 novembre 1960. Parce que à l'époque, on n'allait pas en ville tous les quatre matins. Donc, la ville était à 30 km, mais il n'y avait pas de véhicule pour s'y rendre. Les gens y allaient à pied. À Dodane. Parfois, il y avait le cafetier du village qui pouvait transporter des gens, mais ça ne correspondait pas toujours avec leur emploi du temps, etc. Et donc, quand on allait en ville, on regroupait toutes les démarches à faire, les achats, etc. Et on s'occupait aussi de... Bah, par exemple, quand quelqu'un savait que vous alliez en ville, « Ah ben, toi, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. » Enfin, voilà, il y avait des commandes qui étaient faites, etc. Et donc, on n'allait pas en ville souvent. Et mon père, il ne voulait pas... moi, je suis née donc le 25 septembre, mais mon père ne voulait pas aller exprès à charge pour déclarer ma naissance. Et donc, ma mère, elle insistait. Elle lui dit, mais quand est-ce que tu vas déclarer la gamine et tout ça? Il dit, de toute façon, pour le service militaire, ça ne lui fera pas de différence. Parce que bon, voilà.
Tu n'étais pas un garçon.
Je n'étais pas un garçon, donc pas très... J'étais la deuxième fille, c'est bon. Et puis, il est allé au moment de Noël, quelques jours avant Noël. Donc, on était quand même en décembre. Et à l'époque, il y avait un mois de délai pour déclarer. Alors, mon père avait le choix entre donner la vraie date de naissance et payer une amende, ou alors mentir sur ma date de naissance. Donc, il m'a déclaré le 25 novembre. Il a quand même gardé le même jour. Même... Voilà.
Donc, du coup, tu fêtes deux fois ton anniversaire.
Je le fête en
septembre. Les vrais et les faux.
Mais ouais, je le fête en septembre. Mais par contre, tout ce qui est paperasse, c'est 25-11, quoi. Parce que, voilà, donc quand on me demande ma date de naissance, ça dépend pourquoi. Donc voilà, donc je raconte un peu ces anecdotes-là qui sont importantes, en fait. Et puis, jusqu'à notre arrivée en France. Mais bon, ça s'arrête après, quand je quitte mes parents à l'adolescence.
Oui, j'avais beaucoup aimé ces livres. Et donc, après, tu as un deuxième, en 2010. Ça t'a pris 5 ans pour écrire le deuxième, quand même.
Mais en fait...
Alice au pays de Salazar.
C'est ça. En fait, je n'avais pas dans l'idée d'écrire un deuxième, mais une dame qui s'appelle Alice et qui a vécu des moments douloureux durant la dictature a lu mon premier livre et m'a demandé d'écrire son histoire. Voilà. Et donc, j'ai intitulé ce livre « Alice au pays de Salazar ». Et donc, elle aussi, c'est une histoire d'immigration, mais elle est venue à l'âge adulte, elle est d'une autre région. Voilà, donc c'est mon deuxième livre qui n'était pas du tout prévu au programme, mais voilà, j'ai eu un grand plaisir à l'écrire.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc, on est à l'écoute de l'émission Lusitania, comme tous les samedis de 18h à 19h. Et aujourd'hui, avec nous, Altine Ribeiro, qui est venue nous parler de la SALF, qui fait une rencontre le 1er juin à la Maison du Portugal, à la Cité universitaire, et aussi de son écriture. Donc, on va passer au troisième livre, celui-là. En coproduction, on va dire comme ça, ou co-écriture, voilà.
Avec Danninger, donc...
Qui s'appelle « Trois notes de bleu pour un fado ».«
Trois notes de blues pour un fado »,
oui.
C'est ça. Et en fait, lui, c'est un petit peu... Il a aussi lu mon premier livre, qu'il a lu d'une traite, qu'il a beaucoup aimé, Et lui aussi, en lisant mon livre, il s'est dit, moi aussi, j'ai envie de partager un peu mon histoire, l'histoire de mes parents. Et donc, on l'a coécrit. Et ça a été un vrai plaisir de collaborer avec lui. Et donc, dans la première partie, je raconte l'histoire de ses parents quand ils sont arrivés en France. Et la deuxième partie, c'est sur son envie, son rêve de faire passer les émotions à travers la musique, ses moments de doute et puis ses rencontres musicales importantes avec Lio, Rui Veloso et d'autres artistes. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième.
Et c'est comme un livre d'entretien.
Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait.
C'est comme une biographie aussi.
C'est ça, C'est ça, tout à fait. Ouais.
Et donc celui-là, il est sorti en 2016.
C'est ça.
Donc 6 ans après le deuxième.
Ouais, oui, oui, oui. Il faut du temps. Hein.
Écriture, oui, c'est énorme.
Oh,
oui.
Bah, l'écriture d'un livre, c'est au moins 3 ans. Parce qu'en fait, il faut l'écrire, il faut monter l'histoire, etc. Et puis après, il faut trouver un éditeur. Après, une fois que l'éditeur... Après, il faut le relire, il faut le corriger. Il faut, c'est un boulot. Mais bon, moi, j'aime ça. Et voilà, c'est pour ça que... Et puis ça prend du temps, parce que je ne faisais pas que ça. C'était pas mon...
Voilà. Oui, oui, voilà, tu avais, là, oui. tu avais un métier et une famille aussi. Ben oui. Et donc, les livres, c'était quand tu pouvais...
Eh ben oui,
quand la vie te laissait le temps.
Exactement, exactement.
Alors, on va partir en musique, et puis après, on va revenir vers Altine. Pour parler de son dernier livre, Dans la Zézigne, et presque le temps est passé. Voilà. C'est dingue parce que c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Donc, on va écouter encore qui tout chose, et c'est un morceau qui s'appelle Duo Accord. Donc, on va l'écouter. Donc, on vient d'écouter un extrait de Duo Accord de Quito Sons, et on est avec Altine Ribeiro. Et je voudrais parler avec elle de son dernier livre, Donna Zézigne, La vie ordinaire d'une institutrice.
Peu ordinaire.
Oui, pardon, La vie peu ordinaire d'une... C'est moi qui a besoin des lunettes. Oui.
Alors... Oui, alors c'est un livre sur l'enseignement au Portugal durant la dictature, à travers l'histoire d'une institutrice qui m'a été racontée par son fils, Carlos Alexandre. Donc, alors, il a lu mes premiers ouvrages. Ça lui a rappelé des choses qu'il a vécues avec sa mère, parce que comme il était donc le fils de la maîtresse, il avait une très grande responsabilité sur ses épaules. Donc, les maîtresses à l'époque étaient très très exigeantes, très sévères. Sa mère l'était, comme toutes. Comme la plupart en tout cas, et elle était encore plus avec lui, donc pour Mais lui oui. ça a été compliqué. Il a commencé à me raconter tout ce qu'il a vécu, et de fil en aiguille, je lui ai... Alors là, pour le coup, c'est pas lui qui m'a demandé d'écrire l'histoire, mais c'est moi qui lui ai pas proposé de l'écrire, mais en tout cas qu'il l'écrive, parce que je l'ai trouvée passionnante. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants dans les villages, mais comme il y avait 70% d'analphabètes et que le gouvernement gouvernement voulait maintenir le peuple dans l'illettrisme, pour le coup, les conséquences, c'est qu'il n'y avait pas assez d'enseignants pour pouvoir. Et donc, Salazar souhaitait quand même se servir de l'école primaire pour faire la propagande de la dictature.
Bien sûr.
Donc, des tout petits, voilà. Et donc, du coup, il y avait cours seulement dans les grands villages et pas dans les tout petits villages plus éloignés. Et donc, il a décidé de créer des structures là où il n'y en avait pas. Mais comme il n'y avait pas assez de professeurs, il a fait appel à des anciens élèves qui avaient eu le certificat d'études avec mention et il leur proposait une formation pour être prof, donc non titulaire, ce qu'on appelait à l'époque « regente scolaire ». Et donc, cette Dona Zezinha a enseigné dans la région entre Guarda et Sebugal. Et donc, elle allait soit remplacer des profs absents dans les grands ou petits villages, ou alors elle était donc missionnée dans les petits villages où une nouvelle structure venait d'être créée. Et elle emmenait son fils avec elle, donc dès l'âge de 3 ans. Elle défendait la dictature en place. Elle en faisait la propagande durant ses cours. Mais quand son fils a eu l'âge d'accomplir le service militaire, eh bien là, elle a changé son fusil d'épaule et elle avait peur qu'il parte à la guerre, donc, puisque c'était les guerres coloniales en tout début des années 60. Salazar ne voulait pas perdre son empire, alors il envoyait les soldats en Angola, Mozambique, en Guinée.
Oui, oui.
Voilà. Et donc, du coup, elle l'a envoyé clandestinement en France pour qu'il échappe à la guerre coloniale. Donc, il a été... ce livre, je l'ai écrit en français. Il est sorti en 2017 et je l'ai traduit en portugais. Il est sorti l'année dernière. Et entre la traduction, entre la version française et la version portugaise, j'ai pensé qu'il serait intéressant, parce que je suis allée dans la région, j'ai rencontré des anciens élèves de l'institutrice et qui m'ont parlé d'elle. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'en trouver d'autres, de les interviewer et d'annexer au livre, à la version portugaise, les témoignages de ces anciens élèves. Et comme il est aussi question de la guerre coloniale, j'ai aussi le témoignage d'un monsieur qui a fait la guerre et qui me raconte l'horreur de la guerre, et d'un autre qui a fui, enfin qui ne s'est pas présenté au service militaire, et donc il est allé en prison, et qui me raconte l'horreur de la prison durant la dictature.
Donc on peut trouver tes 4 livres lors de cette rencontre à la Maison du Portugal le 1er juin à la Cité universitaire. Je rappelle que la rencontre commence à 13h et ça dure jusqu'à 19h. À 16h, il y a le concert de Kitu de Souza. Un grand merci, Altina Rivelo.
Merci à toi pour
ici avec nous, de nous avoir présenté cette rencontre organisée par l'association La Salf. Et donc, rendez-vous samedi 1er juin à la Maison du Portugal, donc, qui se trouve à la Cité universitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est au 7 boulevard Jourdan, dans les 14e. Et restez à l'écoute de l'émission Lusitania. Des émissions d'Aligre, Lusitania touche à sa fin. Un grand merci à Armand et à Célien pour la technique. Et restez avec version originale de Patrick, Léon, Émile. Et on part en musique avec Kit de Souza, les derniers morceaux. Récital, tradition et érudition. Merci à vous et bon week-end.
Merci. Thank you.
écoutez Aligre FM 93.1.